Bonjour à tous, bienvenue sur le 81e épisode de Comics Weekly. Ça commence à faire tellement de chiffres que c'est dur à dire.
Ouais, bah bonjour.
mais j'y viens. Donc avec moi cette semaine, Mister Anemone.
Ouais.
Je vais te faire une présentation à la catch. Mister Anemone. J'ai vraiment l'impression d'être un gogol en plus, c'est terrible. avec nous aussi cette semaine, Claire.
Wouhou, je suis de retour les gens.
Oui, Claire qu'on n'avait pas vu dans un podcast depuis l'année.
Ouais, voilà, à peu près.
Depuis l'année dernière.
Bonne année.
Bonne année, nous sommes le 10 février, bonne année Claire.
C'est la blague que l'on va faire jusqu'en juillet.
Tout à fait.
Je pense qu'on peut dire bonne année jusqu'à la fin de l'année, puisque comme c'est la dernière après tout.
Au pire, bon, c'est en avance année. Pour l'année d'après. C'est pas très grave. Ok, donc cette semaine, le même programme que d'habitude, hein, des news, des reviews et des vannes.
Voilà.
Ouais.
Et ça c'est désespérant déjà.
Mais il y a pas Sam, donc ça donne une note d'espoir déjà.
Non, attends, Sam, j'ai vu que il a aimé ses lectures là cette semaine, donc il aurait pu nous dire des trucs.
C'est pour ça qu'il a pas osé venir peut-être.
C'est d'autant plus dommage.
C'est pour ça qu'il est pas venu. Je vais dire que du bien, je ne peux pas venir.
C'est ça.
Ok, donc on va commencer comme d'habitude par les news et on va faire tout de suite les news Marvel parce que on en a quasiment pas, on en a qu'une. Une news un petit peu dérangeante Marvel qui réclame donc $17,000 au créateur de Ghost Rider, Gary Friedrich.
Ah.
Oui. Alors Gary Friedrich les avait attaqués en justice puisque il est le créateur de Ghost Rider et donc il estimait devoir recevoir des droits pour l'adaptation ciné notamment puisque même si elle est toute pourrie il y en a déjà une deuxième en cours et ça rapporte quand même un minimum d'argent. Donc le procès a eu lieu et finalement il a pas eu de succès dans sa demande, au contraire sa demande a été rejetée et en plus du coup Marvel lui réclame $17,000 pour avoir vendu des prints pendant les conventions de Ghost Rider. C'est quand même aberrant.
Mais néanmoins, tout ce que quand tu travailles pour Marvel, normalement, tu vends totalement tes concepts, quoi. Ils ne t'appartiennent plus.
Mais normalement, on marque, tu sais, créé par machin, etc.
Ouais.
Et, je sais pas pourquoi. Peut-être que à l'époque, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai pas suivi tous les trucs du procès et toute la demande de Gary Friedrich. Enfin bon, la demande était légitime. Maintenant, le fait que ça se retourne contre lui et que Marvel lui réclame $17,000, sachant que bien sûr, Gary Friedrich n'a pas les moyens de payer.
Ouais.
Bien, c'est aussi là le problème, c'est que pourquoi les plus anciens créateurs comme ça essayent de faire des demandes pour recevoir quelques droits, c'est aussi parce que finalement ils n'ont droit à rien, il n'y a pas de retraite comme chez nous. Voilà, donc c'est vrai que les scénaristes d'aujourd'hui ont plus de droits sur leur création, ceux des années 70 beaucoup moins.
Ouais.
C'est un petit peu dommage, un petit peu dégueulasse de voir ça quand même. Enfin moi ça me fait un peu mal au cul quoi.
Bah néanmoins on ne peut que se féliciter du fait que comme les hommes politiques on ne peut que se féliciter du fait que maintenant il y a effectivement des créations de studios où il y a du créateur owned quoi.
Oui, mais alors justement là il y a une histoire, ça fait des émules. Il y aurait en fait Tony Moore qui serait en conflit avec Kirkman par rapport au premier numéro de Walking Dead, surtout.
Attends.
En fait
Juste pour dire, ça fait des émules, mais ça ne fait pas de méga upload, par hasard.
Oh là là.
Attention.
Moi, j'allais te corriger en disant des émules, je pense que c'est plutôt des vagues que tu voulais dire, parce que des émules, je suis pas certain que ce soit vraiment la situation de Gary Friedrich qui est déporté sur Terry Moore, mais bon, c'est pas grave.
Non, mais c'est également par rapport à des adaptations, en fait. Mm-hmm. C'est, alors, j'ai pas tout suivi, hein, mais il semblerait que, en fait, au moment où les droits ont été cédés, quand Charlie Adler a repris, Tony Moore aurait également cédé à Kirkman la moitié par rapport aux adaptations de...
C'est pas
de
exactement ça, c'est...
Non,
aussi...
mais il a aussi donné les clés de sa voiture et puis sa femme.
En fait, c'est aussi... apparemment, en fait, Tony Moore surtout accuse Kirkman de l'avoir blousé, tout simplement parce que il lui avait fait comprendre que s'il ne retrocédait pas ses droits, l'adaptation sur la chaîne AMC, donc l'adaptation série télé, ne pouvait pas se faire. Donc ça l'a aussi forcé un petit peu à rétrocéder ses droits.
C'est pas trop ça que j'ai lu. Moi, ce que j'ai lu, c'est surtout que ça s'est fait il y a un bon moment. Hein. Ça s'est fait en 2004 ou en 2005, quelque chose comme ça, et qu'il pensait pas en fait qu'il y aurait des adaptations.
Ah bon, comme quoi les différentes.
Donc voilà, nous. nous ne savons pas trop. Hein. Nous, on fait juste, on vous donne les informations telles quelles du web, c'est-à-dire apprendre avec des pincettes. Et on suivra peut-être ces.
Bah, après, en gros, voilà, Moore voudrait récupérer des droits sur la création de Walking Dead, qui fait aussi partie de, enfin, en tout cas, qui lui est aussi copyrighté, puisqu'il était là en tant que créateur au départ avec Kirkman. Et Kirkman ne lui reverse pas de droits, finalement, en tout cas, ne serait-ce que sur l'adaptation de la série télé.
Voilà. À quel tour?
Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir ça dans le milieu du comic creator-owned, quoi. Ouais, parce que dans le milieu des studios, on a l'habitude, ces histoires d'argent, je veux dire, on se rappelle tous des procédures avec Siegel et Schuster contre DC, la famille Simon aussi qui a essayé de récupérer les droits de Captain America ces derniers temps. Enfin,
la Siegel et la fourmi aussi.
On avait prévu qu'il y aurait des vannes en même temps. Donc voilà, enfin, là, le voir ça du côté du créateur owned, c'est un petit peu plus dérangeant, quoi. Surtout sur une série qui marche à ce point.
Bah ouais. Comme quoi.
On verra bien où ça va mener tout ça, mais en tout cas, c'est désolant. Je vois que ça comme. Bon, bref, on va passer à DC.
Plus soyons.
Ouais. On va passer à DC. On va commencer par les chaises musicales des équipes créatives de chez DC qui continuent.
Alors,
cette fois-ci, c'est les dessinateurs un petit peu qui vont tous bouger. Hein, attention, donc c'est-à-dire on quitte une série, on va sur une autre et on est remplacé par quelqu'un qui part d'une autre série. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Alors, Fernando Danino va aller sur Suicide Squad.
Il était sur quoi, lui?
Il était sur Resurrection Man.
Formidable. Claire qui connaît mieux que moi maintenant les dessinateurs.
Et oui, parce que j'aime bien son style. Donc c'est dommage parce que
j'avais pas retenu son nom.
J'avais pas vraiment accroché.
Mais attends. Resurrection Man va avoir au dessin maintenant Rezu Seiz qui vient de Birds of Prey.
Ah ouais, c'est pas mal aussi. C'est un autre style, mais c'est pas mal.
Et donc, puisqu'il quitte Birds of Prey, qui va aller sur Birds of Prey? Eh bien, c'est Travel Foreman qui quitte Animal Man et qui sera remplacé par Steve Pugh.
D'accord.
Et alors, Steve Pugh, il ressort d'où? De nulle part.
Non, il n'était pas sur une série, je crois.
D'accord.
Je crois, il n'était pas sur une série du 5. Non, en fait, il était censé faire les fill-ins du 7 et du 8, et finalement, ça va devenir l'artiste régulier de la série.
D'accord.
Et Travel Foreman a expliqué, parce que c'est vrai que ces derniers jours, on se demandait un petit peu ce qui s'était passé, pourquoi Foreman quittait la série à laquelle il a participé, à donner une identité créative vraiment particulière, une identité visuelle surtout. Et on se demandait un petit peu pourquoi, et Travel Foreman a expliqué pourquoi. En fait, quand il acceptait le job d'Animal Man, c'était principalement parce que sa mère venait de mourir et que il avait des frais assez énormes à payer pour l'enterrement, la succession, etc. Et donc il a accepté ce job en partie pour l'argent, quoi.
D'accord.
Et le fait est que quiconque lit Animal Man sait à quel point c'est glauque,
oui.
C'est organique, etc. Et c'est-à-dire que Travel Foreman ne peut pas continuer à travailler là-dessus parce que ça le...
Il peut pas faire son deuil comme il faut.
Voilà, exactement. Ça, en fait, ça le bouffe.
Ça le déprime, quoi.
Ça le déprime, ouais. Et il trouve qu'il est pas au sommet de son art, en quelque sorte, quoi. Il est pas capable de rendre un travail correct parce que ça le déprime trop de travailler là-dessus, ou ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Alors, je ne sais pas de quoi sa mère est morte, parce que si Animal Man lui rappelle sa mère, ça ne doit pas être très joli à voir, je pense, mais... Voilà, donc il peut pas, donc il va partir sur Birds of Prey. C'est donc pour ça qu'il quitte la série.
D'accord.
Ouais, Birds of Prey, c'est quand même plus joyeux. Hein.
Oui. Ouais, bah, espérons. Oui.
Sauf s'ils font un arc où tous les Birds of Prey meurent les unes après les autres.
Le mec a pas de bol, quoi.
Mais certains se réjouiront de son départ d'Animal Man, parce que moi-même, j'avoue que j'avais eu du mal avec son art, quoi, avec sa manière de dessiner sur Animal Man. J'ai préféré le fill-in fait par je ne sais plus qui, d'ailleurs.
De toute façon, on voit bien qu'au fil des numéros, quand même, la qualité, c'est toujours sympathique, mais la qualité est moins bonne que le premier, honnêtement. Mm. Enfin, que les premiers. Donc oui, je comprends que le mec soit déprimé un petit peu, quoi. Mm. On va continuer, mais justement, puisqu'on est sur Animal Man, Animal Man va avoir un annual en mai.
Entièrement dessiné par Travel Foreman.
Non, il sera dessiné par Timothy Green.
Ah, je ne sais plus qui c'est non plus.
Timothy Green numéro 2. Hein. Timothy Green 2.
Ah oui, d'accord, oui. Donc pour ceux qui ont raté le premier, c'est bon, ils peuvent le prendre quand même.
Je sais plus ce qu'il a fait, Timothy Green. Non, il a fait pas mal de trucs pourtant. Mais là, comme ça me revient pas. À froid, je sais plus. Bref, bon, une petite recherche Wikipédia, puis ça ira. Mais ce sera pas la seule série à avoir un annual. Il y aura aussi Teen Titans qui aura un annual par Scott Lobdell, Tom DeFalco et Brett Booth.
Ouf.
Ça pue le 90 là quand même.
Ouais, quand même, quand même, quand même. Mais enfin, ça peut être vraiment pas mal. Tom DeFalco, il est bon en ce qui concerne la gestion de beaucoup de personnages, donc.
Ouais, puis bon, il est en tandem avec Scott Lobdell, donc.
Ouais.
Voilà. Je veux dire, là, c'est vraiment le parfum des années 90. C'est deux franchises qui vendaient beaucoup, Spider-Man et X-Men réunis en un seul et même package.
Ouais, et ben c'est Nono qui sera content de nous faire la review des Teen Titans.
Donc apparemment ça va lancer une histoire donc avec Superboy, Legion Lost, Teen Titans et les Ravagers.
Les Ravagers.
Les Ravagers.
Oui, Ravagers, hein. Qui est la nouvelle série qui arrive aussi en mai d'ailleurs.
D'accord, ok.
Et ça peut se traduire en français, ça, les Ravagers?
C'est le nom de l'équipe. Ravagés.
Non, c'est pas justement.
Et d'ailleurs, Ravagers, on a vu la cover, justement, cette semaine, paraître. Bon, ça a l'air sympa. On verra. Enfin, le dernier annual sera Batman. Un annual de Batman par Scott Snyder et Jeff Abbok.
Ah, d'accord. ce sera sur cette fameuse intrigue, je pense.
Ah non, alors pas du tout. En fait, justement, donc là, on aura Jason Fabok, donc le petit disciple de...
David Finch,
merci. Oh là là, j'ai un peu de mal, là, un peu de trou de mémoire. Et ce sera sur Mr. Freeze dans ce nouveau monde de 52. Mais il y aura toujours le Court of Owls qui se trame derrière.
Mais d'accord.
Ça, principalement sur Mr. Freeze.
Ok.
Voilà. Donc, trois annuals en mai.
Toujours ouais.
Ça.
Ouais. Pourtant, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de raison.
Mm. Bah, c'est pour vendre plus.
Non, mais d'accord, mais les annuals, ça sort. Il n'y a pas de mois d'annual, au fait, aux États-Unis. Ça sort n'importe quand, hein. C'est pas comme le Free Comic Book Day.
Il y a une époque, dans les années 90, les annuals sortaient souvent pendant l'été.
Ouais.
Notamment chez Marvel, ils faisaient à l'époque même des crossovers.
Des mini-events dans les annuals de l'été, ouais.
Ah ouais,
DC l'avait fait aussi, hein, pendant un temps, au tout début des années 90. Il y avait eu pas mal d'annuals comme ça, il y avait eu Bloodlines. Il y avait eu quoi d'autre encore? Oh là là, j'ai des trous de mémoire.
À chaque fois, c'était des chefs-d'œuvre, hein, je remarque quand même.
Oui, 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 des trucs qui sont restés à la postérité. Mm. Incroyable. Mais après, ils avaient fait des essais, notamment, ils avaient fait toute une année d'annual où c'était Legends of the Dead Earth, c'était des espèces d'Elseworld. Ils avaient fait un truc aussi, c'était Pulp Fiction, je crois, ou un truc dans le genre. Et c'était que des histoires pulp, tous les annuals étaient des pulp.
D'accord.
C'était assez marrant. Bref. Ouais. C'était pas non plus essentiel puisque, ce sont des annuals, hein. Comme chacun sait, les annuals,
c'est la vie.
Pas à grand chose. Alors, une autre série va débarquer chez DC. Et alors là, par contre, ce ne sera pas une série qui fera partie des 52. Ce sera Smallville saison 11.
Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Non, mais alors, faut arrêter.
Attention.
Quoi.
Alors, ça va sortir à partir du 13 avril en digital, toutes les semaines.
Ouais.
Et on aura par la suite des impressions en papier pour ceux.
D'accord.
Qui,
donc j'imagine que toutes les semaines ce sera pas 22 pages. Enfin 20 pages, ce sera
Je ne sais pas. Donc ce sera écrit par Brian Q. Miller qui était un des scénaristes de la série Smallville. Mm-hmm. Donc apparemment ça reprendra là où la série s'était arrêtée, hein.
Ouais, logique, ouais. Non, ça reprend tout depuis le début, au fait. Ils vont te faire tout en papier.
C'est la saison 11. Donc apparemment, ce sera 6 mois après que Clark Kent a enfilé la cape et qu'il est parti sauver la Terre d'Apocalypse. Pour ceux qui n'avaient pas vu la saison 10 comme moi, voilà, vous savez.
Au moins maintenant, ils vont pouvoir faire des trucs qui pètent.
Voilà, et maintenant, il sera Superman, vraiment.
Ben ouais, il a fallu que ça se finisse pour qu'il soit Superman et qu'il porte son costume. C'est un peu dommage. Par contre, avec le succès de Buffy et les fameuses saisons en papier, là... Ça peut marcher, hein, Smallville.
Je pense, honnêtement, je pense sérieusement que c'est pour ça qu'ils lancent une Smallville saison 11.
Mmh. Je pense qu'on peut avoir tous les ans maintenant du Smallville des saisons de Smallville comme ça.
Mais vous croyez qu'il y avait une base de fans aussi forte sur Smallville que sur Buffy à l'époque?
Ouais, il y en avait quand même une importante, hein.
Importante, oui, maintenant, autant que Buffy, je suis pas certain.
Je suis pas certaine, moi, hein.
Pas forcément, non. Ouais.
Bon, en même temps, c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, voilà, si ça peut permettre de laisser la continuité Smallville dans son propre univers et dans ses propres comics, oui. Et arrêter de nous la ramener dans l'univers DC classique, c'est pas plus mal.
Oui, effectivement.
Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Chacun,
non, moi je veux un ongoing sur Chloé Sullivan.
Ouais. Mais donc on retrouvera justement Chloé Sullivan.
C'est quoi, je dis Sullivan, je pense à comics.
Chloé Sullivan Queen, hein, puisqu'apparemment elle est mariée avec Oliver Queen dans cet univers.
Et non avec Sullivan, du coup.
Lois Lane, Lex Luthor, le général Lane, et bien sûr Oliver Queen, Green Arrow, hein, on le retrouvera aussi. au casting de cette série. Bon, bah, espérons que ça marche.
Bah, ou pas, hein, mais en tout cas, je pense que ça pourrait marcher.
On va rester sur Superman avec un autre titre Superman qui va arriver, mais avant, je dois vous parler de l'arrêt d'une série... alors là, on est dans l'univers DC Kids. Batman Brave and the Bold s'arrête ce mois-ci avec le numéro 16. Mais la famille DC Kids va pas perdre trop longtemps un numéro, puisque il y avoir une nouvelle série, comme je disais, hein, Superman Family Adventures. Donc c'est vraiment pour les enfants. Enfin, pour les enfants, pour tous les âges, en fait. Hein. C'est comme Tiny Titans, c'est par la même équipe, Art Balthazar et Franco. Ça arrive le 30 mai. Et ça a l'air complètement fou.
Ouais.
Moi, je vais le lire, c'est obligé.
Ouais, ça donne envie.
Je vais le lire, puisque apparemment, on va retrouver, hein, d'après Balthazar, toute la famille Superman au grand complet. Hein. C'est-à-dire qu'on aura, bien sûr, Lois, Perry, Jimmy, Superboy, Supergirl, mais on aura aussi des gens comme Bizarro, Parasite, Brainiac, Metallo, Lex Luthor, et on aura Crypto. Bien sûr.
Quand même.
Mais pas que, puisque selon Franco, on aura aussi quelqu'un qu'on n'aurait pas vu depuis très longtemps, Fuzzy the Crypto Mouse.
Voilà. Sans aller chercher loin, celui-là, à mon avis.
Ouais. je sais pas d'où il sort celui-ci, mais voilà. Donc non, bah, ça a l'air complètement déjanté. Si c'est aussi drôle que Tiny Titan, ça va être vraiment sympa.
Ouais.
Voilà. Et puis bah, je crois que c'est tout pour les news hein, de cette semaine. Ah non, il me restait quand même une dernière chose à parler. J'ai appris l'existence d'un projet où j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Il va y avoir, enfin en tout cas, ils sont en train de travailler sur une comédie musicale de Retour à le futur.
Oh là là.
Oh. Oh là. Alors attention. Quand je dis ils sont en train de travailler, c'est Robert Zemeckis, Alan Silvestri, le compositeur de la musique, et Bob Gale, le scénariste original du film. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipe originelle du film.
Mais il faut pas faire ça.
Alors, faut faire un nouveau film.
Ben oui.
Franchement, attends, mais on a des films tout pourris en ce moment quand même, globalement. Et là, il y avait l'occasion de faire un nouveau retour vers le futur, et non, quoi, ils nous vont nous
non,
faire une
comédie musicale. Non, mais franchement, qui va regarder ça, quoi? Déjà, il y a que les Parisiens qui y vont, parce que c'est que, enfin, quand ça viendra à Paris, quoi. Non, franchement, non.
Allez, chantons le générique de retour vers le futur.
Alors, justement, en parlant de générique de retour vers le futur, je mettrai sur le Facebook une vidéo que j'encourage tous les auditeurs à aller voir, d'un gars qui nous a fait sa propre comédie musicale, enfin, en tout cas, sa propre version chantée du thème.
Bah, il s'appelle Jean-Lo, d'ailleurs.
Et j'ai cru que j'allais vraiment mourir de rire en regardant ce truc. Donc, je mettrai la vidéo sur le Facebook. N'hésitez pas à aller y jeter un œil.
C'est pas le générique de Back to the Comics, par hasard?
Donc, voilà. Donc, bon, bah, je sais pas. J'attends de voir. Après tout, les comédies musicales actuellement sont un gros succès, quoi.
Et puis après tout,
on a eu du Batman, on a eu du Spider-Man, Back to the Future, merde.
Quand même. Ouais.
Je vous sens motivé, c'est incroyable.
Ah, mais à fond.
Ok, allez, bon bah c'est tout pour les news et on va attaquer les reviews de la semaine. Et on va commencer, allez, honneur aux dames.
Oh, comme c'est gentil.
Benny, à toi.
Ah, bon, mais...
Non, je rigole.
Mais attends, je pense à un truc, au fait, dont on n'a pas parlé, je sais pas si on va en parler dans le weekly, mais les bandes annonces de Avengers et Amazing Spider-Man, on en parle ou on n'en parle pas, finalement?
Non, bah oui, on peut en parler, on marque.
Après tout. Allez. C'est quand même de la VO aussi.
Oui, c'est vrai.
Puis c'est actuel.
La bande annonce de Avengers, on l'a tous vu, là. C'est récemment, de toute façon je l'ai pas
vu. Oui, enfin cette semaine, site. Quoi, ces derniers jours. Ouais.
Non, en fait, moi je l'ai pas vu.
La bande-annonce qui est passée lors du Super Bowl, bon, ça pète de partout, quoi, ça donne envie.
Oui, voilà, elle dure quoi, 30 secondes.
Ouais, 30 secondes.
30 secondes ouais. Bon, bah, alors ça m'étonnerait qu'on voit tout le film, non, j'espère pas. Mais ça pète bien. Enfin, j'attendais pas plus ni moins, quoi, c'est ça, quoi, ça remplit un peu son contrat.
Et puis il y a aussi la bande-annonce de Amazing Spider-Man.
Oula, moi j'avais l'impression de voir une bande-annonce de l'ancienne trilogie quand même, pas mal.
Ouais, bon ça donne quand même envie de voir le truc, donc c'est déjà ça quoi.
Ouais.
Je suis toujours pas super certain du choix de l'acteur, mais bon.
Oui, par contre de l'actrice tout de suite plus. Non.
Mais je sais même plus qui c'est honnêtement.
Emma Stone que je ne connaissais d'ailleurs pas beaucoup avant. Mais j'ai dîné avec elle. Non, mais en tout cas, Gwen Stacy, Emma Stone, ouais, non, ça a l'air d'être, ça le fait bien, je trouve. Bon, alors par contre, elle est rousse, normalement, dans la vie, et elle n'est pas blonde, et du coup, elle aurait fait une bonne Mary Jane, quoi, une bonne Mary Jane, et c'est bizarre.
Elle a plus un visage à la Gwen Stacy qu'un visage de Mary Jane, quand même.
Ouais, Bah ouais, ouais, c'est vrai que bon, Mary Jane, faut avoir les fameuses fossettes normalement, si on veut être fidèle au personnage d'origine.
Ouais. Puis bon, elle a ce côté un petit peu rond au niveau du visage, un peu poupon, qui fait que bah on pense plus à Gwen Stacy qu'à Mary Jane, quoi.
Ouais. De toute façon, moi je trouvais que Kristen Dunst, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, j'ai jamais été fan d'elle en tant que Mary Jane, quoi.
Non, ça allait pas. Moi, je suis d'accord avec toi, ça allait pas.
Voilà. Ça me faisait penser à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin voilà. Bon, ça pouvait pas être Mary Jane. Puis même le côté méga top modèle, etc. Faut pas déconner, quoi. Bon. Ouais, elle est sympathique à regarder, mais sans plus.
Ouais, voilà. Ok, bon bah n'hésitez pas à aller les voir si vous n'avez pas encore vu ces bandes annonces. Donnez-vous envie. Et là c'est pareil hein, pour Amazing Spider-Man, on voit pas tout le film.
Bah j'espère pas.
Enfin j'ai pas l'impression qu'on voit tout le film en tout cas.
On voit pas mal de choses hein, par contre. Ouais. Elle fait une heure.
Une bande annonce d'une heure.
Une heure.
Ça s'appelle un long métrage à ce niveau-là.
Oui, ça s'appelle voir le film d'une manière détournée alors. Mais en tout cas, ouais, 1 minute 30 à peu près. Et bon, enfin voilà, on voit quand même pas mal de choses, contrairement à Avengers. Ouais. Avengers qui sort avant, hein, je pense.
Oui, Avengers qui sort le 27 avril.
Le 27 avril et Spider-Man, je pense que c'est courant l'été, c'est ça?
Spider-Man, c'est le 4 juillet.
Et ouais, et voilà.
En France, en tout cas.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on l'aura peut-être aussi un peu avant les Américains, comme d'habitude.
C'est possible, ouais. Même qu'ils sortent un peu plus tôt aux États-Unis, je ne sais plus. Ok, bon bah allez, cette fois-ci on passe au review, donc Claire, c'est à toi.
Alors, pour commencer, je vais vous parler de Wolverine and the X-Men numéro 5.
Oh putain, Claire qui lit du Marvel. Voilà.
Ouais, et qui aime ça, en plus. Donc c'est toujours les mêmes, hein, Jason Aaron au scénario, Nick Bradshaw au dessin, et puis au niveau de l'ancrage, Nick Bradshaw et les deux Walden Wong.
Enfin les mêmes pour le nouvel arc, hein, puisque c'était
écrit. Oui, non mais oui. Oui. Alors, eh ben écoutez, on avait quitté les X-Men avec Kitty Pryde qui était quand même dans une position assez surprenante, on va dire, hein, puisque.
Oula, tu me fais peur. Moi, j'ai raté cet épisode, alors merde.
Mais écoute, on l'a retrouvée enceinte.
Ah bon, bah alors en plus.
Donc voilà, effectivement, position un petit peu inconfortable, hein. Surtout qu'elle ne se sait pas pourquoi. Donc nous avons notre Vierge Marie des X-Men.
Si c'est un glaçon qu'elle prend le ventre, ça donnera un indice.
Et donc.
C'est un garçon, non, c'est un glaçon.
Et alors donc ben justement on se pose, enfin tout le monde se pose un peu les questions.
Si elle fond, elle perd les os.
Donc de savoir qu'est-ce que c'est, hein. Donc je vais pas vous révéler si c'est une fille ou un garçon. Vous verrez ça par vous-même. Hein.
Ah donc on le sait dans l'épisode.
Ah oui, dans l'épisode, on le sait.
Ça, c'est une grossesse super accélérée.
Ah oui, c'est une grossesse très très accélérée.
C'est vraiment que chez les X-Men qu'on voit ça.
Voilà. Donc, et donc en fait, dans cet épisode, ben on va suivre donc d'un côté cette grossesse justement qu'elle voulait garder cachée, mais que finalement elle a pas pu parce que justement c'est
voilà, très
accéléré,
oui,
quoi. un petit peu. Et d'un autre côté, on va suivre l'école qui a un petit peu des problèmes financiers. Qui essaye de trouver un moyen d'être financé auprès de différentes personnes. Je peux pas trop vous en révéler.
Mais ça c'est bizarre parce que normalement ils sont ils disposent de la technologie Shi'ar et de plein de trucs.
C'est-à-dire qu'ils ils disposaient de tout, mais l'école a été rasée, quoi. Donc ils avaient complètement la refaire. Et ils sont à court d'argent. Déjà à l'épisode d'avant, on avait
vu il avait mis vraiment tout ce qu'ils avaient comme fric là-dedans. Ils avaient été aidés d'Angel, mais bon, Angel est dans un état voilà.
Lobotomisé.
Oui, c'est vrai qu'il a quelques petits problèmes en ce moment.
Mais rappelez-vous, voilà. À la fin de l'épisode 3, justement, il poursuivait le Hellfire Club pour dommages d'intérêt.
Parce que justement, ils ont des problèmes financiers. Donc on a cet aspect-là également qui est de plus en plus présent. Et on a toujours notre petit groupe d'élèves là qu'on suit. La petite bande qui s'était formée pendant le. Le premier arc. Et donc finalement, on en apprend un petit peu plus, notamment sur deux élèves au cours de l'épisode. Brou, vous savez, c'est le petit alien là.
Ouais.
Et puis Quentin.
Alors là, Quentin. Ah oui, Queer.
Quentin,
oui, voilà.
Queer.
Qui vont chacun avoir un rôle dans cet épisode. Bon, ça pète bien, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un petit peu de qu'est-ce qui va se passer. Enfin, franchement, c'est vraiment une super série. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup cette série de Marvel. Ça vraiment, il y a tout dedans, quoi. C'est fun à lire, mais c'est pas genre le fun qu'on lit en se disant bon, allez, c'est bon, quoi, j'ai pas dépensé trop d'argent, ça ira. Non, c'est vraiment du fun où on est content d'avoir acheté ce truc, quoi. Donc pour moi, c'est évidemment un bail.
Oh, ok.
C'est cool.
T'as pas l'air convaincu, Steve.
Non, vraiment.
J'ai regardé qu'est-ce qu'on allait faire ensuite, en fait. Benny, c'est à toi.
Ok, bah allons-y. Alors donc, je vais commencer peut-être par du DC, du coup, pour switcher un petit peu. Batman and Robin numéro 6.
Yep.
Donc, toujours Peter Tomasi au scénario et Patrick Gleason au dessin. D'ailleurs, pour continuer sur ce débat des dessins de Patrick Gleason, je suis désolé, mais d'ailleurs, l'histoire commence sur la grosse tête de Robin. Il adore dessiner les visages. Il y a souvent des plans comme ça où on voit la tête des personnages. Et
ah
puis,
moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a beaucoup de fonds qui sont très vides. Ce sont juste des aplats de couleurs.
Voilà. Et ben là, justement, on en a le parfait exemple sur les premières pages. Ils sont sur un fond orange. Point. C'est tout. Voilà.
Ouais, il y a beaucoup de passages où c'est juste un fond.
Ouais. 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 Et puis bon, après,
ça n'enlève rien. Hein.
Oui et non, quoi. Disons que c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il pourrait travailler un peu plus ses décors.
Je pense que c'est un effet de style volontaire. Bon, peut-être aussi un manque de temps, mais aussi un effet de style volontaire pour que tu te concentres que sur les personnages, que tu regardes pas les décors et que tu ailles vite. Parce que c'est dans les scènes d'action, généralement, les scènes pour donner un espèce de rythme.
Ouais, mais moi je trouve ça un petit peu facile et puis bon, ça rappelle aussi pas mal les comics des années 90 où t'avais souvent les personnages qui étaient super bien dessinés, enfin bien dessinés en tout cas, et ils étaient devant des fronts bleu, blanc, rouge, vert, jaune, enfin tu vois, il y avait pas beaucoup de travail sur les décors. Je trouve ça un peu dommage, un petit peu facile. Enfin bon, surtout que il y a certains personnages qui ont des drôles de tête par moment. Je trouve. Bruce Wayne, il est un peu bizarre quoi sur certaines pages. Sorti de là, le scénario est quand même assez intéressant, même si le côté est-ce que Damian va partir du côté obscur, tu te doutes bien que non. Enfin, je sais pas, mais moi je m'en doutais que le mec allait pas complètement péter les plombs, surtout que l'histoire, enfin cette intrigue a déjà été étudiée auparavant quand même. Mais enfin, ça reste sympathique et puis ça se termine sur un bon cliff. Donc
ouais, moi j'aime beaucoup. Ben, j'aime beaucoup. Il y a eu un passage un peu chiant. Et là, c'est moi, je trouve que c'est bien reparti.
C'est bien reparti, ouais. Donc, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le méga bail, mais c'est un bail moins, quoi. Mais c'est quand même un bail.
Oui, ah oui, pour moi aussi, c'est un gros bail. Enfin, c'est une bonne lecture de la semaine. Ça continue bien si on a aimé depuis le départ, ouais.
Ça se lit avec plaisir. Bon, par contre, il y a toujours quelques petits trucs qui me taquinent un peu, comme le côté Bruce Wayne qui a un méga Hulk à un moment donné. Il te fume un mec, tu sais, avec un parpaing. il arrive dans sa voiture, il le démonte totalement. Enfin, il est dessiné vraiment comme une grosse masse. On a l'impression que c'est Hulk, quoi.
En même temps, oui, bon, c'est vrai que là, oui, il est un peu stock, quoi. Bon, ouais. Après, il y a la rage. Il y a la rage qui fait qu'il s'énerve.
Oui, il y a la rage qui fait qu'il s'énerve. Alors, arrêtons-nous, chers camarades, je pense qu'on peut avoir un débat là-dessus. Est-ce que la rage énerve forcément? Oui, on peut avoir la rage qui n'énerve.
Oui, bon. Ok, donc un bail, hein.
On passe à autre chose, ouais.
Un bail. Ok, bah, du coup, on va continuer de changer de maison d'édition. On va passer à Image avec la sortie de Thief of Thieves de Robert Kirkman et Nick Spencer. Donc le fameux gros truc là qui sort ces derniers temps, enfin dont on nous a fait pas mal de pubs ce mois dernier. Alors apparemment c'est déjà sold out.
Ouais.
Déjà.
Oui, ouais. C'était sold out dès le premier jour.
D'accord. Bon bah alors c'est con parce que ça m'intéressait, je pensais le prendre.
Ah, c'est sold out aux États-Unis, mais les comic shops français qui les ont déjà reçus.
Ouais, remarque. En France, il y a toujours des chances de mettre la main dessus, je pense.
Donc. Le dessinateur, c'est Sean Martin Brough, que je ne connaissais pas du tout, qui a un style relativement cartoony. Ça me fait un peu penser à, dans un autre esprit quand même, mais un petit peu à du Michael Avenoming, ce qu'il faisait sur Powers, un petit peu dans ce style-là, un peu moins cartoony quand même, hein. Mm-hmm. Mais dans cet esprit, quoi. Comme toujours d'ailleurs chez Kirkman, il y a souvent un style assez cartoony. Donc à savoir que cette série va être écrite un petit peu façon série télé avec un cast d'auteurs tournants, c'est-à-dire qu'on a Robert Kirkman qui pitch l'ensemble de la série et après il délègue à d'autres auteurs. Donc là, d'accord, au début, ça va être Nick Spencer, après on en aura d'autres. Apparemment, il y aura un cast de 6 auteurs, si j'ai bien compris. Alors, on avait parlé de ça dans les news il y a quelques semaines.
Ouais.
Donc c'était l'histoire d'un voleur, un gros voleur, hein, le mec qui vole d'un voleur d'art, quoi, principalement, qui est ultra connu.
Gros voleur, oui.
Qui, à la veille de son plus gros coup, le plus gros coup de sa carrière, décide de tout quitter, de se reconcentrer sur sa vie de famille, sa femme, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire, passez le premier épisode. Ça sert à rien.
Ah, c'est pas bon? Moi, je m'attendais à un truc
très bon. Non, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien écrit, c'est très sympa. Ce problème, c'est qu'on n'a pas du tout ce qu'on nous a annoncé. C'est-à-dire que on a la présentation du personnage relativement succinctement. On a la présentation d'une femme qui est soit sa femme, soit une collègue, hein, voleuse. Mm-hmm. On ne sait pas trop. Et à la fin, on a le gars qui fait I quit.
D'accord, donc au fait, on n'en apprend pas plus, quoi.
Oui, on en sait même plus sur ce qui va se passer dans la série avec les conférences de presse, enfin les annonces qui ont été faites à la presse il y a de ça quelques semaines, que ce qu'on a vraiment dans le premier numéro. Je trouve ça pas normal. C'est-à-dire que même si c'est bien, en gros, j'ai rien appris. C'est 2,99$ qui sont pour rien finalement, puisque ça, je le savais déjà, gratuitement. C'est quand même un peu con, quoi.
Mmh. Ah ouais. Donc,
le problème, c'est qu'on est encore une fois dans cette espèce d'écriture en trade. Et grosso modo, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, attendez le trade. Mais le problème, c'est que si on attend le trade, on soutient pas la série va pas se vendre et donc va s'arrêter. Donc, on se retrouve un petit peu emmerdé. Donc, c'est bien écrit, c'est très sympa, mais si vous connaissez l'histoire, vous apprendrez rien. Vous apprendez. Oh là là.
Vous n'apprendrez rien. Vous apprendrez rien du tout.
Vous n'apprenez rien du tout dans ce numéro. Donc c'est dommage, quoi, parce qu'on nous a parlé que le mec allait être pourchassé par ses anciens collègues, allait être pourchassé par la police. Bon, la police, on la voit pas. Ses anciens collègues, on les voit sur 3 pages. Non, franchement, non. Enfin, c'est sympa, mais il manque quelque chose, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, vraiment, on mitaine, quoi, ce premier numéro.
Franchement, tout juste un check-it, quoi. Tout juste un check-it, parce que je peux pas dire un bail là-dessus. C'est bien, mais on le sait déjà, quoi. Ce sera quelque chose dont on va reparler tout à l'heure aussi, cet argument-là. Donc, non, un check-it.
Ok.
Claire, de nouveau à toi.
Alors, eh bien, moi, pour ma deuxième lecture, je vais vous proposer Frankenstein, Agent of Shade, hein, ça ne change pas. Donc, pour un nouvel arc, en fait. Alors, je ne sais pas trop combien d'épisodes il va durer. Donc, c'est toujours Jeff Lemire qui l'écrit, c'est toujours Alberto Ponticelli qui dessine. Dans cet arc-là, en fait, on part sur une nouvelle menace. Je vais pas vous raconter quoi. Donc ça, qui est en fait une menace à l'intérieur de la Ant Farm, qui ouais. est, je vous le rappelle, le
headquarter.
Voilà, le headquarter, le QG. Donc, si vous rappelez bien, on avait ce gars, en fait, qui venait pour faire une sorte d'audit un peu de la Ant Farm depuis le premier épisode, en fait. Et c'est vrai que même moi, il a tellement pris part, en fait, avec ce qui se passait dans l'action, que j'avais oublié que c'était quelqu'un qui était externe à la Ant Farm au départ. Mm-hmm. Donc, il vient et donc on continue, en fait, à découvrir la Ant Farm, comment elle est faite, les différents secteurs, et notamment... le secteur, en fait, des holos. Donc les holos, ce sont ces sortes de personnages qui sont créés et qui vivent seulement une journée, qui en fait gèrent complètement la Ant Farm. Donc ce sont des sortes de robots, enfin c'est mi-organique, mi-robot un peu.
Ça a duré une durée de vie d'une journée, quoi.
C'est ça, en fait il les recycle. Donc dès le départ, en fait, c'est la première... C'est vraiment la première la première image où on voit la façon dont le cycle de vie, en fait. C'est complètement recyclé. Ouais. Et on nous explique que ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sens, et que de toute façon ils ont même pas ils se rendent même pas compte de leur existence, finalement.
Ouais.
Et dès le départ, on voit qu'en fait peut-être que si.
Oui, bah oui, on s'en doutait. S'ils s'insistent là-dessus, c'est qu'il doit y avoir un problème avec ces fameux holos, quoi.
Voilà. Donc là on est vraiment dans... Il y a quelque chose qui va se passer avec tout ça dans la base. À côté de ça, on est sur le terrain avec Frankenstein et sa petite troupe, hein, qui nous parle de son passé, comme quoi il était en fait employé par l'armée militaire, tout à fait, par l'armée américaine.
C'est vrai, je vois que je suis pas le seul.
durant la guerre du Vietnam, et qu'il était là pour aider un peu les troupes, mais qu'il n'était pas tout seul, hein, qu'il avait avec lui un autre méta-humain, ouais, qui était en fait le colonel Quantum, qui en fait a décidé en fait de quitter parce que au bout d'un moment il s'est rendu compte que voilà on tuait les gens pour rien, tout ça, donc il a décidé d'arrêter
le fameux code Quantum d'ailleurs.
Tout à fait. Non mais en plus ça, quand tu lis ça fait code name colonel Quantum, moi aussi j'ai lu code Quantum, tu vois.
Ouais, tu penses forcément à ça.
Forcément.
Et sachant que de toute façon en anglais ça ne s'appelle pas comme ça, donc il y a que les Français qui vont penser à ça.
Oui.
Ah oui, d'ailleurs ça s'appelle comment en anglais?
Quantum Leap.
Ah bah oui. Oui, Quantum Leap. Et donc du coup c'était un ami entre guillemets de Frankenstein, et voilà, à cette époque il a décidé de déserter. Frankenstein a dit OK, très bien, je te laisse. Et là en fait, il a été envoyé par le Father là pour aller le tuer, parce que on s'est rendu compte qu'il s'était réveillé 40 ans plus tard, et donc il nous raconte un peu sa vie passée. Et en fait, ben voilà, les deux éléments vont se rejoindre à un moment ou à un autre. Notamment, tout au long de cette histoire, on a le côté, quand on est un monstre, est-ce qu'on a des sentiments? Est-ce qu'on doit juste obéir aux ordres? Est-ce qu'on peut réfléchir et faire des choses par soi-même? Et sur les deux niveaux, tant sur le côté, sur le terrain avec Frankenstein que dans la Ant Farm, ça va être développé. C'est quelque chose qui avait déjà été développé dans... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui va être développé sur tout cet arc. Et c'est quelque chose qu'on avait pu sentir, je trouve, déjà à l'épisode précédent, lorsqu'il avait été rabiboché au niveau de son bras. Je sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui l'ont
lu. Je l'ai pas lu. Donc, je veux bien croire qu'il a été rabiboché au niveau de son bras.
En fait.
Rafistolé, même, je dirais, peut-être.
Rafistolé, ce que tu veux. Enfin, bref, il a perdu un bras, on en a refoutu, hein. Parce que c'est Frankenstein, donc on peut remettre ce qu'on veut sur lui.
Tu et trouves un mort, c'est bon, quoi. Tu lui coupes un bras.
Et... Exactement. Et, en fait, c'est quelque chose où, il a réfléchi à ça, le fait de savoir qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il était possible de savoir quelle était la personne derrière tout ça. Donc, on sent que voilà, derrière le côté action et tout de cette série, il y a quelque chose d'un peu plus métaphysique entre guillemets, de un peu plus réflexif. Hein, et je pense que ça va être développé sur cette nouvelle arc. Donc, j'ai bien aimé. Donc, c'est un bail. Et je laisse la parole parce que je la police beaucoup.
Ah mais ça me fait penser un petit peu à Terror INC chez Marvel. Hein. Je sais pas si tu te rappelles de ce personnage, Benny.
Ouais.
Qui vole des parties de cadavres et justement exploite les possibilités, les dons qu'avait cette personne-là.
Ouais. Ouais, ouais. Mais j'ai pas encore tellement lu Frankenstein Agent of Shade, donc je vais pas trop me prononcer sur la ressemblance éventuelle avec ce truc, quoi. Mais bon. Bon, en tout cas, vu les échos que j'en ai, ça donne envie, quoi. Surtout que la série est un joli succès, apparemment.
C'est du Jeff Lemire. Il a cartonné avec Animal Man, et les gens, du coup, se sont intéressés aussi à Frankenstein. Et à raison, hein, parce que de toute façon, Frankenstein est très bon.
Oui, oui, très très bon.
Bon. À mon tour, peut-être, du coup.
Mais bien sûr.
Alors, Incredible Hulk, peut-être Marvel, Jason Aaron au scénario, Wiles Portacio au dessin, cette fois-ci, enfin, depuis cet arc-là.
Oui, malheureusement.
Ouais, donc, d'ailleurs, on peut commencer par les dessins, comme tout à l'heure, des dessins... un peu bizarre, c'est-à-dire
pas réussi, franchement.
Il y a des passages assez réussis et puis d'autres qui sont vraiment moches.
Savoir qu'il est il a trois encreurs, hein. Il a Alan Martinez, Rick Ketchum et Scott Hanna.
Ouais.
Il y a peut-être ça qui joue, mais il y a des passages franchement très laids. Oui. On a la page où on a le titre notamment, la troisième, où on a un Hulk qui a quand même une espèce de gueule à la limite d'être un trisomique quand même. Vu l'écartement des yeux.
Alors, je sais plus. Attends, j'essaie de retrouver. Effectivement, oui, effectivement, c'est... il y a du ça. Mais il y a aussi des pages où il y a Amanda Van Doom qui est plutôt réussie, puis des pages où elle est carrément atroce.
Ouais. Non, c'est très inconsistant dans le dessin.
C'est très irrégulier, effectivement.
Moi, je retrouve pas le Portacio que j'ai aimé dans les années 90, loin de là. Il a modifié son style, mais moi, ça me plaît pas du tout.
Ouais. Et puis alors Bruce Banner aussi, Bruce Banner qui quelquefois ressemble à un petit gnome là. et Frankenstein, non, bah d'ailleurs Frankenstein. Pourquoi je t'ai dit Frankenstein? C'est pas parce qu'on vient d'en parler, c'est parce que il y a vraiment Hulk qui a une tête à la Frankenstein. Ça fait vraiment penser à Frankenstein quoi, à un moment donné. Ouais. Quand tu le vois lobotomisé là par, je vais pas dire son nom d'ailleurs.
Oui, parce que oui, voilà, c'est quand même le principe de ce numéro-là, c'est qu'on va.
Bah oui, alors voilà, on sait exactement ce qui s'est passé, comment Hulk et Bruce Banner ont été séparés et les raisons de leur séparation. Voilà, on a tous les détails là-dedans. Moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé, plutôt bien apprécié qu'il nous explique un petit peu plus comment ça s'est passé, parce que jusque-là, c'était un petit peu nébuleux cette histoire et je me demandais si Jason Aaron allait nous en dire plus. Donc là, c'est fait. Bon, maintenant, on sait très bien que il y a eu une contrepartie de passer avec la personne qui s'est occupée de séparer Hulk de Bruce Banner.
Et au moment de nous dire quel est son prix, c'est la fin de l'épisode.
Voilà, ah. C'est ça, forcément.
C'est, à la rigueur, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça qu'on va y retourner d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va aller voir le 6 pour savoir.
Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que Sam pestait en disant oui, c'est ridicule. Pourquoi Bruce Banner agit comme ça? Bah peut-être que justement, ça va nous être expliqué grâce à ça. Enfin, ça semblerait logique.
Ouais. Mais moi, je suis. Enfin, l'explication me plaît. Hein, honnêtement, c'est sympa.
Ouais, moi aussi. Enfin, j'ai bien aimé.
Mais il y a quand même un certain retcon, je trouve. Au bout de même pas 6 mois, ça m'embête un petit peu, quoi. C'est-à-dire que j'étais me replonger dans Fear Itself 7, vite fait, pour vérifier la timeline. Et ça me paraît pas possible. Ça me paraît pas possible que Hulk, puisqu'il l'explique, hein, il a été voir tout le monde avant d'aller voir cette personne-là. Et tout le monde a refusé. C'est-à-dire qu'il s'est passé, entre le moment où on voit la fin de Fear Itself, quand on regarde tout le numéro, on voit que la bataille se tient le vendredi. Le samedi, c'est la mort de Thor, hein, c'est pas un spoil pour personne, c'était il y a 6 mois. Et on voit
que... 17h.
Et on voit que la séparation effective entre Hulk et Bruce Banner a été faite le jeudi. C'est-à-dire que en moins d'une semaine, il a pu aller voir tout le monde lui a dit non. Et cette personne qui s'occupait de le séparer a réussi à faire tout ça en une semaine. Sachant qu'elle a quand même recloné le corps de Banner. Mm. Ouais. Ça me paraît juste un petit peu inconcevable.
Ouais, mais enfin c'est plutôt une question de timeline, quoi. C'est pas vraiment un retcon. Oui.
Mais surtout qu'en plus la façon dont ça s'est expliqué à la fin de Fear Itself 7, on avait l'impression que c'était un petit peu cette séparation de Null qui avait fait que Hulk avait pris le pouvoir et qu'il avait expulsé Banner de son corps. Bon, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est pas plus mal parce que l'explication était un peu trop bancale que Hulk par sa simple volonté.
Oui, puis c'était inintéressant. Banner. Enfin moi le truc avec Null, je m'en fous, quoi.
Mais enfin voilà, il y a un problème, quoi. Peut-être qu'il aurait été plus agréable de nous teaser un petit truc comme ça dès le départ. Mmh.
Mais enfin, moi, ça m'a pas étonné qu'il y ait plus d'explications que ça, justement. Et Sam avait l'air d'en douter, avait l'air de dire que, bon, bah, de toute façon, Jason Aaron n'allait pas expliquer un peu plus pourquoi Bruce Banner était devenu complètement dingue. Et bah voilà, donc là, maintenant, c'est fait, ça commence à prendre plus de sens, et c'est pas plus mal. Enfin, moi, j'aime bien, depuis le début, cette nouvelle série, quoi.
Et combien de temps s'est passé, d'ailleurs, entre cette séparation et maintenant? Parce qu'on voit quand même un truc qui est quand même énorme, ce sont les cheveux de Hulk qui sont quand même...
Oui, oui, non mais...
Combien de temps s'est passé?
Cette série se passe forcément dans quelques mois. À mon avis, on est... parce que c'est pareil, Bruce Banner, t'as vu le nombre de créatures qu'il a créées?
Oui, bah oui.
Enfin voilà, ça se passe, à mon avis, dans six mois, quoi, en fait. Par rapport à l'essentiel de tout ce qu'on voit dans l'univers Marvel. Ce qui est pas plus mal, d'ailleurs, puisque de toute façon, cette série ne fait référence à rien du tout.
Pour le moment, ouais. Mais c'est toujours le problème du temps dans les comics, quoi. Ça reste difficile à...
Bah, il fait plutôt beau, là.
Ça dépend pour qui.
N'est-ce
pas? Ça dépend pour qui.
Pas sur l'île de Hulk, non. Non, il faut faire assez chaud, d'ailleurs, j'imagine.
Ça reste sympa. Je suis pas certain d'aimer la direction que ça prend. Hein, c'est ce que je disais la dernière fois. Encore, je persiste à dire que je suis pas certain de la direction que ça prend et je sais pas si ça me plaît. En tout cas, j'ai envie d'aller voir le numéro suivant pour savoir déjà ne serait-ce quelle est cette contrepartie que va devoir payer Hulk.
Bah la direction que ça prend, c'est que à la fin du numéro, justement, il lui dit il est parti vers la gauche et puis il part vers la droite. Point, 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 point. Mais c'est vrai en plus, hein. Tu pourras
un podcast avec des vannes dedans.
Oui.
Voilà. On n'avait pas garanti non plus la fraîcheur des vannes. Hein.
Non, mais c'est des vrais morceaux de vannes, par contre. C'est-à-dire que il y en a qui font des fausses vannes dans leur podcast, et ben nous, il y a des vrais morceaux. C'est comme les vrais morceaux de chocolat, quoi. C'est dedans.
On est en train de s'enfoncer. Donc un bye, Benny.
Oui, même un bye bye, au revoir les gens.
À ce niveau-là, ouais.
Ouais, bah pour moi aussi un bye.
Et moi, je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas lu.
Oui, mais c'est normal. Bon, on va rester chez Marvel. Tiens, je vais parler d'une série dont on n'a pas parlé encore depuis le départ, Battle Scars.
Ah oui, ce truc, oui, oui, qui existe toujours, d'ailleurs, qui est en 6.
Qui est en 6, ouais. Eh ben, je l'ai lu. On en est à l'épisode 4.
Ouais,
et c'est pas si mal que ça. Donc, au scénario, nous avons Chris Yost, Cullen Bunn et Matt Fraction.
Ouais.
Enfin, ça, c'est pour l'histoire, le pitch de départ, le scénario de l'épisode, le script, et donc de Chris Yost, Scott Eaton au dessin et Andrew Hennessy à l'ancrage.
Non, mais j'insistais sur le fait que c'était en 6 parce qu'il me semblait qu'au début, c'était annoncé en 12, comme The Fearless.
Non, mais non, justement, non, c'était toujours été annoncé en 6 et The Fearless est annoncé en 12, d'où la possible confusion, en fait.
D'accord. Et puis, d'où le fait qu'on ne soit qu'au 4 alors que
The Fearless
avance beaucoup plus vite, puis ça fait longtemps quand même que c'est commencé.
Bah, ça fait 4 mois. Tout simplement.
Bon, Godron, c'est normal.
Il s'est écoulé que 4 mois depuis Fear Itself.
Ouais.
Ouais. Et déjà, presque tout a été annulé quand même.
Bah, tant mieux, j'ai envie de dire, hein. C'est pas plus mal.
Oui,
personnellement,
oui.
Je préfère oublier cet événement.
C'est bien la preuve que ça servait à rien. Donc, l'histoire de Battle Scars, je vais forcément planter avant la fin.
Je pense, oui.
C'est l'histoire de Marcus Johnson dont on nous avait teasé que c'était devenu le mec le plus important de l'univers Marvel, mais il ne le savait pas. Et tout le monde était à sa poursuite,
Ouais. Mais
on ne sait pas pourquoi. Mmh. Bah, vous inquiétez pas, on commence à avoir peut-être une idée à la fin de l'épisode. On a un cliffhanger qui est assez intéressant. Mais
il y a quelqu'un sur un forum, pour ne pas le nommer, c'était Scarlet Needle de Buzz, qui avait émis une hypothèse au fait sur Marcus Johnson il y a plusieurs mois de ça. Alors, est-ce qu'il serait lié à Nick Fury, par exemple?
Mais je peux pas répondre, parce que si je réponds, soit je...
Ah bah, enfin, juste, c'est un indice, parce que, de toute façon, ça veut rien dire, lié à Nick Fury.
Je peux pas répondre, je vous encouragerais à aller voir cette fin d'épisode qui vous donnera une réponse.
D'accord. Donc on a quand même une réponse à la fin de cet épisode.
Bah, on a une réponse, on a une première idée de la direction que ça prend.
On dirait que c'est une interview d'un homme politique. Donc nous avons vraiment une réponse à la fin de l'épisode. On n'a pas vraiment une réponse, on a une idée sur la direction que ça prend. Oui, mais alors est-ce que c'est lié à machin? Oui, mais je ne peux pas vraiment vous le dire. Regardez la fin de l'épisode.
C'est-à-dire qu'on a un gars qui le pourchasse depuis le départ et qui apparemment veut récupérer son sang. Parce que ce serait la seule chose qui lui permettrait de venir, de rester en vie. Marcus Johnson, lui, est traqué de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a fait tuer sa mère. C'était ça l'histoire de départ.
Ouais.
C'est qu'on a fait tuer sa mère. Il était soldat en Afghanistan. Mm-hmm. Et afin de le faire rentrer sur le sol américain pour pouvoir le récupérer. Donc, il a été traqué par le Taskmaster, hein, quand même.
On lui attends, ça rigole pas. Ils sont allés chercher loin. Hein. Ils sont allés chercher le gros du lourd, là.
Ben,
du lourd.
c'est quand même un personnage assez balèze, quoi. Taskmaster, voilà, ses pouvoirs sont assez intéressants.
Ouais.
Alors, quoi, ses pouvoirs?
C'est quelqu'un qui a une mémoire visuelle très très importante. C'est-à-dire que s'il voit n'importe quelle personne se combattre, il est capable d'imiter tout de suite son style.
N'importe quelle personne se combattre?
Ouais, c'est des gens qui se battent contre eux-mêmes et tout.
Ouais, enfin.
Mais c'est bon, j'ai compris.
Et justement, le personnage est devenu un espèce de professeur, une sorte de mercenaire et en même temps professeur pour les organisations criminelles où il apprend.
Il est en gros capable d'imiter quasiment n'importe quelle manière de combattre de tous les super-héros, les super-vilains, etc.
Mmh. Il suffit qu'il voit quelqu'un se battre et hop, il y avait un personnage comme ça dans Heroes qui avait une mémoire.
C'est ce que je pensais en fait. Je sais que j'avais vu ça quelque part, donc.
C'est lui, voilà.
D'accord.
Vu Taskmaster. Néanmoins, moi j'avais, c'était mon hypothèse plutôt, que c'était lié au Captain America Black. Alors je sais pas si c'est aussi un rapport. Évidemment, tu vas me dire peut-être, peut-être pas.
Eh ben, je vous encourage à aller voir la fin de cet épisode, laquelle vous aurez une réponse. Voilà. Bon, il est traqué. Donc, comme je disais, donc par le Taskmaster, mais le Taskmaster est mal en point. Là, il y a la Serpent Society qui débarque et on a aussi Deadpool. Enfin, tout ce joyeux petit monde se met sur la gueule. Certains essayant de capturer Marcus Johnson, d'autres en essayant de le protéger pour le capturer pour eux. Bref, lui, il est au milieu de tout ça. Il comprend pas très bien ce qui se passe. C'est de l'action, espionnage. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je pense que peut-être qu'attendre le TPB pour se faire une lecture en one shot.
Ouais, je pense que c'est largement mieux.
Bah, mieux, oui et non, parce que là, honnêtement, cette fin d'épisode, j'ai envie d'avoir la suite. Mais tu vois, je me dis, j'ai un mois pour essayer de faire des pistes, etc. Donc c'est cool.
D'accord.
Il y a aussi cet avantage de la lecture mois par mois, c'est qu'on a le temps de s'imaginer pas mal de trucs et se rendre compte que c'était pas ça du tout et qu'on est parti dans une autre direction.
Moi, ça me rappelle quand même le phénomène Ezra Miller. Tu sais, ils avaient dit ouais, ça va être le personnage le plus important de tout l'univers Marvel après House of M. Et au fait, bon bah, elle s'est retrouvée dans une série. Alors, elle est très bien utilisée dans X-Factor, mais là, je pense que ce sera pareil pour, j'allais dire, Ahmed Johnson. C'est un ancien catcher. Marcus Johnson. Marcus, voilà. Ouais.
Mais honnêtement, hein, avec la réponse qu'on a à la fin, je ne vois pas comment ce mec-là va être le sauveur de l'univers Marvel, personnage super important, machin. Moi, honnêtement, non.
Est-ce qu'il pourrait pas se retrouver quand même dans les Avengers? Je t'encourage à aller voir à la fin de l'épisode.
Ah ben, il a pas de super pouvoir, hein, ce monsieur. Bon, en tout cas, ouais. Pour le moment, il en a pas fait l'étalage, s'il en a. Ils sont bien cachés. Ouais. Non, mais enfin bon, c'est sympa. Donc, je vais dire un petit check-it. Un petit check-it, ouais.
Un petit check-it. Même pas check-it.
Non, mais enfin, si on n'a pas lu la série, prendre ce numéro-là, juste pour avoir la réponse, ouais, mais... Non, on check it. Ça vaut pas le bail, quoi. C'est pas le bail de tout à l'heure, comme Incredible Hulk, par exemple.
Ah oui, d'accord. Ok.
D'où le check it.
D'accord.
Ok, Claire.
Alors, rapidement, donc troisième lecture de la semaine, Resurrection Man. Donc toujours Dan Abnett, Andy Lanning à l'écriture et Fernando Naninho, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au dessin.
Que j'ai commencé à lire, mais que j'ai arrêté, sachant que t'allais en parler, je me suis dit, bon, bah, je vais te laisser.
Ouais,
en parler.
Voilà.
Il m'avait donné envie, en plus.
Alors, l'épisode précédent, on en avait appris beaucoup sur le passé de Mitch.
Quel enculé!
Ouais, grave. Oh
ben, alors... moi, je suis au courant de rien, là, par contre.
Ah, mais c'était.
On va rien te dire.
La pire crevure.
Ah, mais grave, vraiment.
La pire crevure possible.
Et là, en fait, dans cet épisode, alors là, c'est un épisode un peu, je pense que c'est entre deux eaux, quoi, hein, parce que c'est un épisode où ce qui se passe à Arkham Asylum. Mitch est enfermé dans Arkham Asylum parce qu'en fait, il veut mourir et que voilà,
oh,
les gens ils ne comprennent pas que voilà, ils veulent mourir, il n'est pas cohérent, il explique que voilà, il faut qu'il meure pour se réincarner de nouveau, tout ça. Donc c'est un épisode sympathique, on voit l'intérieur d'Arkham, bon voilà quoi, c'est pas sensas non plus quoi. Par rapport au reste de l'histoire de Resurrection Man, ça fait pas avancer les choses. C'est vraiment un épisode voilà, à lire parce que ça se passe à Arkham et qu'il y a quelques
références. Moi, ça me donne bien envie quand même, ne serait-ce que le pitch de, j'allais dire Demolition Man maintenant. Resurrection Man à Arkham. Voilà, c'est pour moi là déjà c'est vendu quoi.
Est-ce qu'on apprend pourquoi il se retrouve à Arkham? Parce que c'est vrai qu'à la fin du dernier épisode il était vaporisé et on sait pas trop pourquoi il se retrouve là-bas quoi.
Bah écoute, en fait non, il se retrouve à Arkham parce que il a ripopé à Gotham en fait, je pense.
On sent les gens qui jouent au MMORPG tout de suite. Hein.
Oui.
D'accord, oui, alors j'ai compris, ça y est, j'ai compris ce que ça voulait dire du coup. Heureusement que tu m'as dit MMORPG parce que sinon ripopé comme ça.
Oui, en fait. Ouais. Il a ressuscité.
Moi, quand je vais à Monopoly, je ripope pas, donc
Tout simplement, il a ressuscité à Gotham, oui. Je pense. Et, que, en fait, voilà, il a été trouvé là,
d'habitude, quand même, il ressuscite là où est son corps.
Oui, mais là, non. Et alors, je pense que c'est parce que, comme il y avait, on va continuer dans le RPG, il y avait l'ange qui campait
l'ange,
son corps. Non,
il est un petit peu vaporisé, surtout, quoi.
Oui, voilà. Et elle campait son corps pour être sûre qu'il ne revienne pas. Donc, je pense, en fait, que tout simplement,
Attendait surtout qu'il revienne pour pouvoir l'emmener, mais bon.
Oui, il a combien de mana, là, maintenant?
Bah écoute, je ne sais pas, mais une fois qu'il a repris tous ses esprits et qu'il a pu utiliser ses pouvoirs, il était assez puissant quand même. Et je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde, le petit clin d'œil qu'il y a à la fin par rapport au bat signal.
Mais, ce qui m'embête un petit peu quand même avec Resurrection Man, c'est que j'ai un petit peu l'impression de relire la première série là. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes... Le même cheminement qu'il y avait dans la première série. Le coup des body doubles, le mec qu'il poursuit, le black qui veut le récupérer, qui était son ami, qui ont la même expérience tous les deux. Enfin, quiconque a lu la première série, bon, c'est réactualisé, c'est super sympa à lire, mais le fait qu'il se retrouve à Arkham, c'était dans la première série, et si je me rappelle bien, c'était au numéro 6 aussi.
Réciproquement, par contre, beaucoup n'ont pas lu la première série, et beaucoup ne connaissaient pas du tout Resurrection Man, et beaucoup ne savaient même pas qu'il existait d'ailleurs, pire que ça.
Exactement.
Bien sûr, oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire ça avec ce personnage-là, parce que personne le connaît, enfin, personne s'en rappelle.
Bah, ouais. Mais écoute, ça marche bien, ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien cette série. Là, je te dis, c'est un petit épisode, à lire entre deux trucs d'histoire, ça fera plaisir parce que ça se passe à Arkham. Bon. Si vous avez envie de voir ce que ça donne Resurrection Man à Arkham, bon, c'est un bail. Si vous voulez vraiment avancer sur l'histoire, ça peut être juste un check-it.
Ok, ok. Mais dans le même principe, hein, on attend qu'il nous ressuscite des personnages oubliés des années 90, tel Hitman, en rappelant Garcenis chez DC. Puisque Resurrection Man, dans les épisodes d'après, dans la première série, avait fait un,
bah moi, j'aimerais bien,
un petit tandem avec Hitman.
J'aimerais bien que ça revienne, ça.
Ouais.
Ça aurait été pas mal que ce soit l'un des New 52.
Bon. Alors, on avait déjà Deathstroke, alors on pouvait pas avoir deux chasseurs de primes. Mais bon, vu que ça va bientôt s'arrêter avec Liefeld.
D'ailleurs, on a vu Deathstroke passer dans l'épisode précédent de Resurrection Man. Ça faisait un peu clin d'œil, genre achetez aussi Deathstroke, s'il vous plaît.
C'est le principe.
Ben oui, mais c'était comme j'en ai pas parlé, mais avec Frankenstein, l'épisode où c'était avec Omak, où dès le départ on dit si vous voulez voir l'autre côté de ce combat, achetez Omak.
Ah, ça, enfin, c'était volontaire, enfin c'était bien connu.
Non, mais je sais, mais. Enfin, moi,
t'as la couverture de Omak et la couverture de Frankenstein, c'était des miroirs.
Oui, oui, mais enfin moi, je lis Frankenstein, j'ai pas du tout envie d'aller lire Omak, par exemple.
C'est ah pas... Oui, mais ça c'est tout le problème de Animal Man, Swamp Thing, ou tout le problème de même de Stormwatch et
Animal Man et
Drifter,
Swamp.
Quoi.
On reste Superman. Dans le même style, hein, si tu veux. On reste un peu dans le même style de d'histoire, machin. Omak et.
Mais Omak, tu l'as pas lu, mais tu sais pas du tout, mais Omak, ça pourrait peut-être te plaire justement. Connaissant tes goûts un petit peu, je pense que ça pourrait peut-être te plaire.
Bon, je verrai alors. Bref, donc check it ou bye, suivant ce que vous voulez.
Ok, Mr. Ron Ebony.
Ouais, ben alors écoute, Mr. Steve, yeah, comment tu vas? Je vais repartir sur quoi du coup? Je sais plus, mon dernier pic de la semaine là.
Scarlet Spider numéro 2,
mais oui, exactement. Donc, au scénario, Chris Yost, et puis au dessin, Ryan Stegman. Ouais. C'est très, je vais commencer par les dessins comme d'habitude, ce sera fait. Donc c'est très cartoony. Ça rappelle pas mal les précédents travaux justement de Chris Yost. Il a toujours eu des dessinateurs assez cartoony qui l'ont accompagné durant sa carrière. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'il avait fait sur les comment ça s'appelait, les Young X-Men. Je sais plus à force.
Oui, c'était ça.
Donc c'était pas Ryan Stegman, c'était celui qui est actuellement sur Ultimate X-Men. Je sais plus son nom, j'ai oublié, mais en tout cas voilà, c'était un dessin assez cartoony dans le même genre.
Bon, enfin, pour la petite histoire, c'est aussi Mike Babinski à l'ancrage, hein. Je le précise.
Mm-hmm. Et oui, bah tu fais bien. Donc voilà, bah alors graphiquement, bon, c'est sympathique. Maintenant le scénario, alors là c'est vraiment un épisode 100% action où il se bat contre cette espèce. Alors je sais plus quel est son nom, mais en gros c'est un
Salamander. Hispanique.
Voilà. C'est un hispanique qui balance du feu. En gros.
C'est une salamandre donc.
Et
donc il avait un bon nom donc.
Bah là l'histoire, ouais, 100% action. Que dire, je trouve que pour le moment il manque un petit peu de personnages secondaires, hein. Il manque un petit peu de consistance à cette série pour que ça devienne vraiment quelque chose d'intéressant. J'espère que Chris Yost va construire tout un cast de personnages autour de Kane. Et le problème aussi, c'est que on oublie carrément qu'on a affaire à Kane. Moi, à chaque fois, je me dis c'est Ben Reilly. Non, c'est bien Kane. Je trouve qu'il manque. Il est pas si torturé que ça, quoi. À la fin, il dit ouais, non, je suis pas un héros. Bah si, quoi. T'es un héros, donc voilà. Enfin, je veux dire, le mec vient de faire son rôle à la Spider-Man. Il est une espèce de Spider-Man bis et il est surtout une espèce de Scarlet Spider. Enfin voilà.
De toute façon, Salamander passe son temps à dire je vais te buter, Spider-Man. Il l'appelle Spider-Man.
Mais enfin voilà, donc je suis ça me titille toujours un petit peu, c'est le fait que ils aient pas voulu ressusciter Scarlet Spider, mais en contrepartie voilà, ils vont utiliser Kane dans le rôle de Scarlet Spider. Ça me dérange toujours un petit peu. C'est sympa, mais ça manque sérieusement de consistance là pour le moment. Il faut qu'il crée tout un univers autour de Kane pour que ça marche.
Je vais pouvoir apporter quelques réponses parce que j'ai lu une interview de Chris Yost avant qu'on enregistre le podcast, qui parlait justement de Scarlet Spider. Et donc le cast récurrent, on l'a vu dans cet épisode. C'est-à-dire que le docteur que l'on voit va être un membre récurrent du cast de Scarlet Spider, de même que le flic aussi.
D'accord.
Donc ils vont faire partie, et cette fille bien sûr qu'il a sauvé, partie d'une grande histoire. Il a donné un petit peu ses plans, c'est-à-dire qu'il a dit que pour les 6 premiers épisodes il allait mettre les choses en place un petit peu, et à partir du milieu de l'année 2012 il va attaquer la grosse histoire. Enfin, ce que j'ai peur, c'est que malgré tout, enfin, chaque épisode pourrait s'arrêter là. À la fin du 1 ça aurait pu s'arrêter là, la fin du 2 c'est pareil.
J'espère qu'on arrivera jusqu'à ce fameux grand événement, parce que les séries comme ça ont du mal à vivre.
Le numéro 1 était sold out, hein, quand même, tout de suite.
Ouais, d'accord.
Donc bon, c'est assez encourageant. Maintenant, faut voir. Moi, j'aime beaucoup le principe, notamment parce que c'est à Houston et que ça change aussi. On est au Texas, on n'est pas loin de la frontière mexicaine. Donc il y a une autre ambiance, il y a un autre style. Ça, c'est agréable. Maintenant, est-ce que ça va pas jouer aussi bon, apparemment, il nous promet qu'il y aura des que Kane va continuer d'entendre un petit peu cette espèce de petite voix qu'il entend de Peter Parker qui lui dit de faire le bien. Qu'on aura aussi des membres cast de Spider-Man, notamment des vilains qui vont passer.
Ouais.
Bon, on verra.
Ouais, non, enfin, écoute, globalement, voilà, c'est sympa. Moi, je dirais là un petit bail, mais petit parce que franchement, cet épisode-là, bon, il se passe pas grand-chose.
Mais ouais, enfin, c'est bourré d'action, hein, comme tu l'as dit. pardon, c'est vraiment bourré d'action. Ça pète dans tous les sens. C'est très sympa, mais voilà, comme.
Exactement, pas mémorable, quoi. J'oublierai assez vite que j'ai lu ça avant la suite.
Pour le moment, un petit peu, on se demande un petit peu où ça va, quoi. C'est ça, c'est un petit peu ça le souci, quoi.
Puis c'est bien beau, hein, les trois personnages là qu'on voit, peut-être qu'ils font partie de son entourage, mais pour le moment, ils ont aucune consistance, quoi. Il va falloir les travailler un peu plus.
Bah voilà, mais enfin, il nous a dit, disons que ça prend son temps en installation. On a vraiment l'impression de voir. Moi, j'ai l'impression de voir une série télé où on te pose vite fait les personnages que tu vois comme ça, et à partir du deuxième épisode, oui. Là, pour moi, on aurait atteint la fin du pilote, quoi.
Mais attends, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est le coup du docteur qui lui prend la tête là comme ça, enfin c'est le cas de le dire, et qui tiens, je vais te soigner, mais je lui dis oula, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait, il va s'en manger une.
Oui, mais voilà, moi aussi. Et je me suis dit déjà, le mec est démasqué, il a même pas la présence d'esprit de remettre son masque, quoi.
Mais oui, c'est ça. C'est
donc
ça.
Les gens connaissent sa gueule.
Ils pourraient croire que ça y est, ils ont découvert l'identité de Spider-Man, quoi.
Ouais, bon, bah je sais pas comment ça marche, hein, cette histoire.
Alors il y a des gags quand même, enfin il y a un gag qui m'a fait marrer, c'est le maire de la ville qui s'appelle Parker.
Ah, j'ai pas fait attention.
Voilà, il lui dit le maire de la ville va peut-être te donner les clés. Il s'appelle Parker et puis justement ça le fait tilter, il fait ah oui, tiens, Parker.
J'ai pas fait attention à ça.
Et ben voilà, donc petit gag en plus. Un petit peu d'humour.
Ouais, enfin, moi j'aime bien quand même, hein. Donc pour moi, je vais être comme toi un petit bail, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est fun, c'est frais, ça. Ça mange pas de pain. C'est... Bonjour les banalités.
une fois n'est pas coutume.
Ok, allez, on va continuer, on va terminer, parce que du coup c'est moi qui vais terminer. J'ai lu pas mal de petits trucs, j'ai lu vite fait, alors j'en parle très rapidement. Murky World, un one shot chez Dark Horse par Richard Corben.
Oui, quand même.
C'est super beau. C'est tout en noir et blanc, c'est super beau. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est assez particulier, l'histoire dans un monde bizarre où on a un gars, on ne sait pas plus sur lui, qui va se fighter contre des trucs. C'est une espèce de connard, mais avec un vieux dans le rôle. Je sais pas, moi j'ai bien aimé, c'est une bonne
lecture. C'est un old man Conan, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Avec des espèces de géants cyclopes. Voilà, c'est complètement étrange, mais c'est super sympa. Alors, quiconque a envie de se faire un truc assez, assez bizarre, bah, tentez ça. C'est sympa. Pour moi, c'est un bail. Non, c'est un check-it. C'est un check-it, allez.
Bon, allez, c'est un pass.
Check-it plus.
Passe.
Donc, Green Lantern 6, Jeff Jones et Mike Choi au dessin qui remplace, qui fait un fill-in, en fait, pour ce numéro-là. Bon, alors, je vais être très rapide là-dessus. Il se passe pas énormément de choses. On a d'un côté Hal sur Terre, qui a complètement laissé tomber le côté Green Lantern et qui passe du temps à s'occuper de sa meuf.
C'est bien aussi.
Bah oui, ça change.
Voilà.
Enfin bon, il s'occupe de sa meuf, mais de temps en temps, il fait quand même les justiciers, il va péter la gueule à des gars. Mais sans sa bague, attention. Il l'a laissé carrément chez lui, d'ailleurs. Il est sorti sans sa bague.
Wow.
C'est assez rare de la part de Hal Jordan. Et de l'autre côté, on a Sinestro qui va à la recherche de Lisa Drake. Alors Lisa Drake, c'était celle qui avait le livre noir pendant Blackest Night.
Voilà, dans l'épisode 46 de la série numéro 3 du volume 6.
tu t'en rappelles, je pense, Benny.
Ça me dit quelque chose, ouais, je vois plus trop sa tronche.
C'était,
mais...
tu sais, la meuf qui était enchaînée avec un bouquin.
Oui, d'accord, oui.
Qui faisait partie du Yellow Lantern Corps. Mm-hmm. Et qui donc, là, a toujours ce bouquin. Sinestro va partir à sa recherche, histoire de retrouver le bouquin et aussi la punir, en même temps, puisqu'elle l'a trahi, au passage.
Puis elle a pas redonné son bouquin à la bibliothèque, et ça fait quand même quelques mois.
Et il va avoir une vision de l'avenir, en touchant le bouquin. Et donc Geoff Johns nous place le plan qu'il va utiliser pour ses prochains scénarios.
Ouais, et Sinestro et Carol Ferris quand même. Non, je déconne. Je sais pas du tout ce qui va se passer.
On entend parler de ces fameux troisième armée, hein, dont les Green Lanterns ont déjà, là, les gardiens ont déjà parlé. Mm-hmm. On voit Sinestro en mauvaise posture face au Indigo Corps. On voit les gardiens avec une bague blanche.
Ouais.
Mm-hmm.
Donc voilà. Il nous place la suite. Faut voir. Là, bon, c'est Mike Choi au dessin. C'est un style cartoony digital.
Ouais.
C'est assez étrange.
Puis ils ont des têtes d'asiatiques quand même, un petit peu les gens.
Un petit peu.
On voit que Mike Choi, j'imagine qu'il est asiat.
Oui.
Il y a des chances.
Bon, c'est sympa. Bon, pour voir ce que Geoff Johns nous prépare. Donc un bail, c'est un bon épisode quand même, quoi. C'est un bon épisode quand même.
Mais franchement, enfin.
Ça fait un peu vieille ficelle.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que le coup de, on voit le futur, enfin, il y a un moment, voilà quoi, ça fait un moment, ça arrête pas d'être utilisé quand même, ça.
Oui, bon, enfin bon, il y a des séries où, enfin voilà, c'est une ficelle qui marche en science-fiction, quoi.
Tu vois. Le coup de la prophétie, quoi, c'est comme, oui. Comme d'habitude, on avait la prophétie avec Abin Sur, la prophétie Blackest Night, là maintenant on a la nouvelle prophétie par Sinestro.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Voilà. Et pour terminer, la grosse sortie de la semaine, Fantastic Four Season 1, le hardcover. Sorti aussi, alors je le précise que le hardcover est à 24,95.
Ah oui, quand même.
Relativement quand même, cher, ouais. Hein,
pour 100 pages.
Enfin, c'est du dur, quoi. C'est vraiment du... Oui. Voilà, c'est un format... Est-ce que le format est différent, non ?
Non. C'est un format classique.
Ok.
Donc on a deux versions, on a la version hardcover et la version digitale. À savoir que on a aussi, en plus de cette histoire de une centaine de pages, hein, on a un reprint du premier épisode de Jonathan Hickman. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais je le précise maintenant. Ce qui fait que ça fait un bouquin de 130 pages à peu près. Donc il est sorti aussi en digital à 19,99€. Donc si jamais vous voulez pas du hardcover, vous voulez juste la version digitale, vous avez 5$ d'économie. C'est toujours ça.
Oui, c'est toujours ça, mais c'est encore pas assez. Mais...
Non, pas du tout. Et j'y reviendrai aussi à la fin. Non, mais je vais y revenir aussi à la fin de ma review sur le prix. Donc, au scénario, nous avons Roberto Aguirre Sacasa et au dessin, David Marquez. Alors, David Marquez, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa.
C'est très sympa, ouais. Franchement.
Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Benny. Du dessin de David Marquez.
Je te disais juste avant l'enregistrement que je trouve que sur certaines planches ça fait même pratiquement penser à du Steve McNiven. Il y a un petit côté Steve McNiven, mais alors bon, c'est pas non plus ça, mais voilà, moi ça me faisait penser à ça, surtout sur certains visages, certains protagonistes féminins ont vraiment je retrouve le trait d'un Steve McNiven. Alors faudrait qu'il travaille encore quelques années, puis voilà, hein, je pense que il a de l'avenir, ce garçon.
Mais il sait,
je sais pas quel âge il a en même temps.
Il a dû s'inspirer. Moi, je connaissais pas du tout, mais en tout cas, c'est sympathique. C'est agréable à regarder pour attirer le lecteur. C'est ce qu'il faut, quoi. Mm. C'est ce qu'il faut.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que Marvel, ils ont pas misé sur des grands noms pour faire justement toute cette gamme de hardcover. C'est des gens. Des scénaristes plus ou moins connus, mais sans plus, hein, voilà. Et puis les dessinateurs, les trois quarts.
On va en avoir d'autres, hein, des season one. On aura un X-Men fait par Denis Opless. On aura Daredevil par Anthony Johnston. Bon, alors là, qui connaît déjà un petit peu le personnage. Ouais. Et Spider-Man par Cullen Bunn. Cullen Bunn que l'on voit partout en ce moment, d'ailleurs.
Ouais. C'est un petit peu le nouveau. Comment s'appelle-t-il? Christos Engage.
Ouais, moi j'aurais dit, enfin vu comment il le place sur des gros projets quand même, pour moi c'est le nouveau Matt Fraction de chez Marvel, Matt Fraction.
Ah, clairement.
Jason Aaron. Ah, il
c'est
le place même
le
protégé, sur des
d'ailleurs.
Il le place sur des gros projets quand même, je trouve, hein. Mm. On a deux trois nouveaux là comme ça chez Marvel, on a Gillen et puis on a Cullen Bunn. Enfin, nouveau, Gillen est déjà là depuis maintenant 2-3 ans, mais voilà, c'est des gens qui sont un petit peu sortis de presque nulle part et qui se retrouvent propulsés sur des séries qui vendent relativement beaucoup comparé à d'autres, bah des gens comme Chris Yost qui se retrouvent quand même sur des séries relativement faible.
Ouais.
En termes de vente, hein, et en termes d'exposition. Bon, alors, le principe de Season 1, c'est une redite moderne des origines. Voilà. Bon. Je peux pas faire plus court, je peux pas vous résumer plus. Et, bah, c'est ce qu'on a. mais c'est aussi bien, enfin c'est autant une qualité que c'est un défaut. C'est-à-dire que, bah, on en a parlé juste avant l'enregistrement, hein, Benny, tu l'as feuilleté. Et qu'est-ce que t'as eu l'impression de voir ? La même chose que ce que tu connais.
Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas de surprise, pas de gros changements, si ce n'est un nouveau personnage.
Ouais, voilà. On a une scientifique qui travaille avec Reed depuis le départ et qui est avec eux, qui les aide, mais qui ne prend pas part au combat. Elle est juste fait partie du staff.
Bon. Par contre,
c'est un bon ajout. Alors, c'est-à-dire qu'on a deux, trois ajouts hein, tout au long de l'histoire, tout au long de ces 100 pages. Deux, trois ajouts sur l'histoire des 4 Fantastiques, qui sont intéressants, qui sont des bonnes idées. Mais justement, c'est là le problème, c'est que ça manque de bonnes idées, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, dans la configuration d'un Superman Earth One, comme avait fait Straczynski l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'a pas modernisé le concept. Et si Superman était inventé aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait donner? Non, là, c'est vraiment une redite pure et dure des origines, avec quelques petits changements, mais pas grand-chose, quoi.
Mais est-ce que tu penses que ça va faire comment dire c'est la nouvelle continuité, c'est les nouvelles origines ou est-ce mais que
je
ça
sais pas si je sais pas si c'est canon ou pas en fait, c'est ça le problème.
Je pense pas à mon avis.
Je sais pas parce que ça demanderait beaucoup de retcon, ça demanderait beaucoup d'explications parce que notamment on a un personnage qui va se mettre à travailler avec les 4 Fantastiques. Ça demanderait beaucoup trop d'explications, je pense.
Non, je pense que ces trucs de Season 1, là, c'est du « et si on faisait ça maintenant mais », mais sans toucher à la continuité actuelle.
Ben, pour moi, c'est même pas « et si on faisait ça maintenant hein, », parce que je pense que si on avait voulu réinventer les 4 Fantastiques maintenant, on aurait eu plus de couilles, on aurait fait ça autrement.
Oui, oui.
Mais « et si on faisait ça maintenant, les gens ?» Allez.
Franchement, enfin, Straczynski avait eu des couilles, lui. Il avait vraiment changé tout le concept. Enfin, tout le concept. En tout cas, il avait beaucoup modernisé le concept de Superman à l'époque du Earth One. Il avait changé pas mal de choses. Là, il y a vraiment rien de changé quasiment, quoi. Les 4 Fantastiques sont les mêmes. Ils ont les mêmes pouvoirs. Ça reste un petit peu le cahier des charges, mais c'est la même explication.
Ils font c'est vraiment pour les nouveaux lecteurs.
Et est-ce que le scénariste, il était connu ou pas trop? Parce que moi,
Roberto Aguirre Sacasa, c'est un mec qui passe pas mal chez Marvel et qui écrit énormément pour les séries télé.
D'accord, parce que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être genre pour des scénaristes et des dessinateurs qu'on connaît pas trop forcément, on leur dit allez, vas-y, tu te tapes à faire ça, tu me fais les origines, je vois comment tu te débrouilles.
Non, lui il avait quand même fait du Spider-Man avant.
Ah, oui, d'accord, okay. Sakasa, il a écrit des trucs pour l'univers cosmique, il a déjà écrit pas mal chez Marvel. Hein.
D'accord, donc oui, non, c'est même pas un truc
dessiné. Puis à mon avis, ils vont pas se risquer à mettre quelqu'un qu'ils connaissent pas du tout pour faire ses armes sur du Earth One. Enfin, sur du season 1 ou, enfin, voilà.
Oui, mais en même temps, s'ils se donnent pas vraiment de marge de manœuvre en disant juste, tu me réécris les trucs, mais je veux pas que ça change trop. Tu sais,
Bah, moi, ça me fait surtout penser à Chapter 1 un petit peu, quoi. Enfin, non. Quoique Chapter 1, il y avait beaucoup plus de changements que ça.
Mais, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment à le lire. C'est super agréable. De ce côté-là, franchement, ça tient la route. Maintenant, moi, il me reste deux questions qui me restent en travers de la gorge. C'est quand même qui ils pensent attirer avec ça, des nouveaux lecteurs? Parce que nouveaux lecteurs, alors je pense. Il y a le reprint de Jonathan Hickman, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis, je pense, c'est pour essayer d'attirer les gens, mais quiconque a lu ça n'ira pas lire les 4 Fantastiques au niveau mensuel. C'est pas possible. Quand on voit ce qui s'y passe actuellement, c'est impossible que les gens, ils vont prendre un numéro, ils vont regarder, déjà ils vont rien comprendre, et s'ils l'achètent, ils le lisent, ils iront pas lire la suite, c'est clair. Ouais.
Non, mais de toute façon, là-bas,
ils vont peut-être lancer le marché du TPB avec l'Arc Solve Everything, comme ils nous reprintent le premier. Mais pour moi, c'est une erreur.
Bah, de toute façon, est-ce que tu penses qu'on peut déjà comprendre l'épisode reprint, là, après avoir lu ça?
Vaguement.
Oui. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, en même temps, je connais des gens qui ont commencé Solve Everything.
À la fin, je veux dire, il découvre ce conseil de Reed d'une terre parallèle où il y a tous les Reed qui sont là.
Ouais, mais en même temps, je connais des gens qui ont commencé à lire du Fantastic Four avec Hickman et qui continuent.
Ouais, mais enfin, en plus, le problème, c'est que, c'est quand même un achat assez lourd, quoi.
Ouais,
c'est 24,95$.
Ouais, mais c'est aussi pour un autre public. Je pense que c'est vraiment pour essayer de, c'est comme le cinéma. Voilà, c'est ça. C'est, ils pensent que le cinéma va attirer de nouveaux lecteurs. Et là, ils pensent que, en donnant du hardcover à des gens qui ne lisent pas d'habitude de comics, ils vont les attirer vers le comics.
Alors, surtout, comprenez bien ce que je dis. C'est vraiment sympa à lire, quoi. Le truc, c'est que, pour les vieux lecteurs, vous apprendrez rien de neuf. Ou en tout cas des choses qui n'auront pas d'intérêt puisque ne sont sûrement pas reprises. Et pour les nouveaux lecteurs, ben, je pense pas que vous puissiez suivre Fantastic Four tout de suite, là. Vous allez prendre, vous avez lu ça, ça vous plaît, vous allez chercher le numéro qui est sorti ce mois-ci. Non? Ben non, non, ça marchera pas comme ça, non. Malheureusement, vous allez rien comprendre. Donc, je sais pas trop. Et, ben voilà. Quel était l'intérêt, finalement, de nous faire un truc comme ça, si c'est pour ne pas s'en servir ensuite?
Non, ce qu'ils espèrent, c'est que les gens vont lire ça, vont bien aimer, vont reprendre le run Dickman depuis le début.
Mm. Oui, ils espèrent peut-être vendre du TPB ou du hardcover après ça,
oui,
ça
c'est
mais.
Possible.
Bah, ils essayent de vendre un maximum le run actuel, quoi, de toute façon. Mm. Mais la question, c'est de savoir si on peut lire ça, puis le run actuel, simplement.
Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça reste très sympa, mais voilà, c'est honnêtement, c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que pour les vieux lecteurs, bah voilà, $25 pour une redite des origines, vous pouvez trouver des éditions de chez là beaucoup moins cher.
Ouais, enfin c'est pas Earth One.
Plus d'épisodes.
Ouais, c'est pas Earth One, et de toute façon, d'ailleurs, ça n'en avait pas la prétention non plus. Quoi.
Oui, enfin c'est quand même la réponse de Marvel à Earth One, quoi. Voilà. Surtout, bon, il appelle Season One. Je pense que
c'est ouais, mais c'est une petite réponse. Voilà.
C'est une petite réponse, mais c'est sympa. J'attends de voir les autres. J'attends de voir les autres. On ne sait jamais. Ça peut peut-être.
Et nous attendons toujours Batman Wars One.
Ouais. C'est bah, juillet pense, hein, normalement. Juillet.
Je pense que quand on a commencé les Comics Weekly, on l'annonçait déjà. Hein.
Ouais.
80 épisodes quand même.
Je sais pas si j'ai
vraiment
envie
des
de
semaines
le voir,
sautées aussi.
Honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment. J'ai plus autant envie de le lire que ça aujourd'hui. Premièrement parce qu'avec le DC New. Ça perd son charme et son intérêt. Et puis quand j'ai vu ce que Geoff Johns a été capable de faire sur la caractérisation de Batman donc du dernier Justice League, ça me fait quand même assez peur.
Bah on verra, on verra.
Mais je suis Bruce Wayne. Non, c'est n'importe quoi. Donc voilà, bon bah faites-vous votre avis. Moi je trouve que c'est encore cher. Déjà il y a un effort de fait au niveau du prix digital. Il est moins cher que le hardcover, c'est quand même logique. Mais pour moi c'est encore trop cher. Ouais. Honnêtement. Un truc comme ça en digital, c'est $12 quoi. S'ils arrivent à le vendre à $12, c'est déjà bien. Parce que c'est quand même $20 pour ça quoi. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup. Et attirer des gens qui vont claquer $25, je sais pas. Je suis pas certain. Pour tenter un nouveau produit, $25, c'est quand même prendre un gros risque.
Ouais, c'est clair.
Enfin, surtout dans l'économie actuelle quoi. Enfin, bref, une bonne lecture, mais à réserver à ceux qui ont vraiment envie quoi.
Et qui en ont les moyens.
Et qui en ont les moyens, ouais. Voilà, donc, bah, un bail quand même, mais avec toutes les pincettes que vous pouvez prendre après cette review. Voilà, voilà, ça conclut le podcast de la semaine, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long par rapport à ce que je pensais.
Mais pas par rapport à d'habitude tellement, je pense.
Non.
Ah, on est à 1h20 quand même passé.
Mais en si bonne compagnie.
Mais oui. Non, mais je pensais qu'on ferait court cette semaine, vous voyez. Non, mais c'est qu'il y en a une qui s'est étalée dans ces reviews, là.
Mais ouais, ouais, c'est... Là, bon sang, je participe une fois tous les mois et demi, là. Donc,
Comment t'as fait ta Jean-Lo? Oh.
N'est-ce pas, hein?
Ok, bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bah oui. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, bien sûr, sur Twitter, les commentaires sur le site, les anciens épisodes sur iTunes. Vous pouvez nous écouter sur Pod Radio aussi.
Ouais, le
mardi.
Le mardi
à 14h et le...
Samedi à 6h du matin.
Voilà.
Ouais, franchement, des rendez-vous incontournables. Mais alors, attends, j'ai envie de savoir, Pod ouais. Radio, c'est le weekly, c'est le Comic City, c'est aléatoire, c'est.
C'est le dernier podcast, donc c'est-à-dire oui. Que la semaine dernière c'était le Comic City, le 63, et puis là cette semaine c'est le 80 qui passe. Donc voilà, vous pouvez suivre notre flux de podcasts en fait sur Pod Radio.
Mais attends, il y a aussi une autre question que je me pose, c'est que comme les podcasts n'ont pas toujours le même temps, comment ils gèrent?
En fait, si on a une plage horaire de 2 heures.
D'accord. Donc à un moment donné, c'est coupé abruptement si ça fait plus de 2 heures.
Oui, bah.
Je ne sais pas.
Je sais pas en fait. Pour l'instant, c'est pas arrivé que ça fasse plus de 2 heures. Donc.
Ah oui, ouais, récemment, ouais.
Récemment, non. Donc voilà. Donc il y a d'autres excellents podcasts que vous pouvez retrouver, notamment le One Night Club, donc qui est sur Pod Radio aussi. Et en parlant de podcast. Sachez, chers auditeurs, que
c'est dur à dire ça. Ouh, c'est dur, hein.
Sachez, chers auditeurs, que j'ai pu ressentir ce que vous ressentez, vous, quand vous nous écoutez et que vous éclatez de rire au boulot. Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai écouté le podcast au boulot, pendant que j'étais en train de bosser, hein, tout simplement. Et je me suis retrouvée à rire. avec mes collègues autour qui me regardaient en me demandant ce qui se passait.
Est-ce donc, que tu te rappelles sur quoi c'était, par exemple?
C'était le 80, mais je me rappelle plus exactement les moments, mais c'est vrai qu'il était très fun celui-là quand même, vous avez fait fort au niveau des blagues.
Je vous rappelle qu'elle l'a écouté il y a 2 jours, mais elle s'en rappelle plus.
Non, ah non, je me rappelle plus. Je ne sais plus exactement, mais je, en plus voilà, je vous connais, j'imaginais très bien avec vos voix et tout, votre tête. Donc voilà.
Non, mais moi je l'ai enregistré avec la tête d'un éléphant, tu vois, cette fois-ci. Par exemple.
Donc voilà. Donc je compatis quand vous vous mettez à exploser de rire en plein transport, dans la rue ou avec votre collègue à côté. Voilà, je sais ce que ça fait.
Eh bien voilà, bah c'est dit. je ne sais pas comment repartir après ça. Aurais-je oublié quelque chose? Oui, l'adresse des mails. Vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse c'est podcast@comiccity.fr. La dernière fois, j'ai oublié de dire .fr. Non, mais c'est con. Si tu marques pas, ça marche pas.
Non, ça marche pas.
Donc voilà. Et puis, bah, je vous encourage tous à aller voir cette fameuse vidéo de Back to the Future en chanson sur la page Facebook, parce que ça vaut le détour.
Et moi, j'organise une bar mitzvah le vendredi. Non.
Qui c'est qu'on découpe?
Qui c'est qu'on découpe?
Ah, bar mitzvah, quoi.
Ah, je crois que c'est Jean-Lo.
Je vous invite tous à voir le prépuce de Jean-Lo.
Voilà, il m'a contacté hier, il m'a dit salut, je sais pas comment te le dire, mais j'ai besoin d'une petite circoncision. Et puis moi, je lui ai dit, bah écoute, pas de problème.
Très bien, et bien sur ce, on vous laisse après une belle heure et demie d'écoute, presque. Et on vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour, plein de tout.
Plein de cacahuètes.
Oui aussi. Et parce que c'est important pour la santé.
Plein d'argent, parce qu'il y en a besoin en ce moment.
Tu vois, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on ne sait pas comment finir. Quand on commence à dire des trucs comme plein de cacahuètes, plein d'argent, c'est plus.
Tout à fait.
On ne sait plus, donc je pense qu'il est temps de dire au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Et à la semaine prochaine.